Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements. Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite FM sur le 88.4. C'est un nouveau numéro de votre émission Micro Ouvert. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous retrouvons des stagiaires de l'E2C78. L'E2C, c'est l'école de la deuxième chance des Yvelines, basée à Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont fait un très beau projet au mois de mai dernier. Ils sont allés en Pologne, le projet Anne Frank. On en parle également avec deux formateurs qui sont avec nous, Salima Touileb et Emmanuel Fernandez, donc de l'école de la deuxième chance. Alors, je vous présente les stagiaires qui sont avec nous, Asma, Nesrin, Florian, ils ne sont pas là mais ils ont participé au voyage, Victor, Soukaina et Ashraf. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ça va tout le monde?
Très bien, et vous?
Ah, vous avez l'air. Alors ce voyage en Pologne, il s'est fait du 21 mai au 24 mai dernier. Vous êtes partis en quelque sorte à la rencontre d'Anne Frank et Asma, donc c'est pour vous la première question, puisque vous êtes, on va dire, à l'origine du projet, puisque vous avez écrit au mois de novembre dernier, en tout cas en fin d'année dernière, vous avez écrit une lettre sur votre portable, vous avez écrit une lettre à Anne Frank.
Oui.
D'abord, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Alors, racontez-nous pourquoi vous avez eu envie d'écrire une lettre à Anne Frank.
Alors, c'est parti de ce projet. On a commencé le mois de novembre, on est parti pour voir un musée qui parle du judaïsme et des juifs. Et après, on a vu un film d'un Franck qui parle de son histoire et tout. Les formateurs nous ont dit si on peut faire des lettres, je sais pas, mais c'était juste comme ça. Et moi, comme j'ai bien aimé le film et l'histoire d'un Franck, je voulais écrire une lettre pour un Anne. C'était pendant le matin, j'étais dans le bus. Je voulais écrire une lettre pour elle et comme quoi je parle avec elle et je raconte mes sentiments pour elle et pour les juifs. Bah, j'ai commencé à écrire la lettre et je l'ai montrée à mes formateurs et ils m'ont dit que c'est bien, super, que je continue sur cette lettre qui parle d'un Franck et dans son histoire. Ça m'intéresse beaucoup, son histoire, et ça m'a touchée.
Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire d'Anne Frank? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Pourquoi ça vous a marqué? Est-ce que si c'est parce que c'était une jeune fille, voilà, par rapport à l'histoire?
Parce qu'elle était une petite fille qu'elle a 13 ans. Elle est morte de l'âge 13 ans. Mmh. Elle a vécu une histoire très, très triste. Et elle était courageuse beaucoup. Elle a fait son journal que tout le monde l'a vu, l'a lu. Et pour moi, que si j'étais comme elle, à la place d'elle, je ne peux pas vivre cette vie parce que c'est trop difficile.
Ok, donc vous avez écrit ce courrier, c'était au mois de novembre. Et du coup, je me tourne vers les formateurs. Alors, quand Asma arrive et qu'elle vous propose, qu'elle vous montre en tout cas sa lettre sur son portable, qu'est-ce que vous vous dites, vous? Parce qu'on est loin encore, entre juste recevoir une lettre pour Anne Frank et proposer un voyage en Pologne, que vous avez réalisé en mai dernier, voilà. Il y a tout un cheminement, là. Allez, Emmanuel.
Alors, en effet, tu es arrivé ce matin-là, je me rappelle très bien, tu m'avais montré ce courrier, et je me suis dit, voilà, c'est aussi pour ça que je veux faire ce métier, que je fais ce métier, c'est dès qu'un jeune me propose ses propres écrits, ses propres textes assez personnels, parce que tu te livrais personnellement, voilà, ça faisait très peu de temps que tu étais là, mais pourtant tu faisais déjà confiance au formateur. Et par cet écrit, tu montrais ton envie de découvrir, cette envie de découvrir une culture différente. Tu parlais, il y avait des mots très importants, très forts dans ce courrier. Tu parlais de respect, tu parlais de tolérance. Donc c'est des choses qui te parlaient. Donc forcément, quand un jeune arrive avec ce type de texte, on est forcément touché et on a envie d'aller plus loin avec toi. Et avec vous, parce que après, c'était pas que ton travail personnel, tu en as vite parlé au groupe, et ce travail de groupe est important chez nous. On fait ça pour vous, et c'est vraiment vous qui avez fait cette démarche. Et le fait que ça vienne de toi aussi, Asma, qui était peut-être la personne la plus réservée du groupe, au moins l'une des personnes plus réservées face à d'autres tempéraments plus forts, notamment masculins de ce groupe. Voilà, ça venait de toi et voilà. C'est pour ça qu'on avait envie de poursuivre dans ce projet avec toi.
Alors au début, le projet, ça devait être qu'un projet, peut-être écrire des lettres, faire un journal. Mais qu'est-ce qui vous a poussé après à partir, à vous dire, bah, tiens, on va prendre l'avion, on va aller en Pologne, justement, pour rendre visite à Anne Frank là-bas sur place. Salima.
Ce projet, justement, comme tu dis, d'aller à Auschwitz, c'est pas notre idée de base, que comme le dit Emmanuel, on suit toujours les jeunes. Et Asma, effectivement, elle a écrit une lettre. Cette lettre a amené à d'autres lettres, donc ça fait effet de... Voilà, boule de neige, et nous, on a suivi, on a été très réactifs voilà, en projectant le film, en organisant les sorties. Les lettres, on ne savait même pas que ça allait aboutir à des lettres, ça s'est construit au fur et à mesure. Il y a eu l'envie des jeunes, ça a été vraiment porté, une motivation, une curiosité. Vraiment, moi, je les félicite parce qu'effectivement, tous les jeunes qu'on reçoit à l'école sont de cultures différentes. Et parler déjà de Anne Frank, c'est quand même assez compliqué, même pour nous en tant que formateurs. Hein, quand je dis compliqué, c'est dans le sens, voilà, au niveau historique, il y a plein de choses voilà, émouvantes. C'est un passé assez compliqué. On ne savait pas que ça allait... On n'y pensait même pas, en fait, à l'Auschwitz. Ça vient des jeunes. D'ailleurs, je ne sais même plus de qui. Si, Florian, qui ne veut pas dire... qui reste très, très discret. C'est vrai, bah, Florian, tu expliqueras aussi pourquoi tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a quelque chose de plus personnel. Voilà, ça s'est fait. Après, on a monté le projet et on est allé à l'Auschwitz. Et d'ailleurs, c'était le point... c'était l'aboutissement, en fait, du projet. Sans passer par là, je pense que... ça n'aurait pas eu la même valeur, parce qu'on a fait la visite, voilà, le MAJ, la mémorial de la Shoah, et vraiment Auschwitz était l'objectif.
Alors justement, Florian, tiens, puisque vous avez été cité, et Nesrine pourra aussi réagir, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de s'inscrire dans ce projet? Voilà, quand vous commencez à d'abord aller au musée de l'histoire du judaïsme à Paris, après, voilà, écrire aussi les lettres, voir le film... voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Vas-y, Nesril.
Bah, par rapport à moi, je me suis intégrée dans le projet vers le milieu du projet, voire à la fin. C'était donc un autre groupe de l'école qui a monté le projet. Moi, ma formatrice, donc Salima, qui m'a demandé est-ce que le projet m'intéresserait. Et oui, ça m'intéressait. Tout simplement, j'ai fait... Enfin, je connais l'histoire, on va dire, des Juifs par rapport donc à la Seconde Guerre mondiale. J'avais étudié ce sujet-là à l'époque au lycée, et c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas découvrir le sujet en profondeur pour le coup.
Florian,
peut-être que j'étais pas forcément très intéressé au début. Parce que je ne connaissais pas du tout Anne Frank, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Après qu'on a regardé son film et qu'on a lu le journal, on s'y intéresse un petit peu plus. La partie qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait de partir, où je me suis plus investi, c'est de partir en Pologne, justement à Auschwitz. C'est un voyage que j'avais envie de faire depuis longtemps, pour voir de mes yeux... comment c'est là-bas, pour ce qu'on en a entendu parler de la Seconde Guerre mondiale à l'école, et je voulais mettre des images sur ça. C'était un voyage que j'avais vraiment envie de le faire, comme j'avais dit. J'y serais allé avec l'école ou sans l'école, j'y serais allé dans tous les cas.
Pour vraiment voir sur place, en fait,
voilà.
Par rapport à tout ce que vous avez appris à l'école, voilà, parce qu'on a eu beaucoup d'images et tout ça, mais bon, c'est resté des images. Du coup, vous êtes allé sur place. Ben justement, on va parler de ce voyage, puisque vous organisez le voyage. Du coup, vous partez le 21 mai et vous arrivez à Cracovie. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait de l'arrivée à Cracovie.
Du coup, là, on est arrivé sur la grande place, pour être très honnête.
Comment s'appelle la place?
Oui, comment elle s'appelle? Selima?
C'est la place du marché Nesrine.
Bien. En tout cas, l'architecture, j'adore. Et comme Selima nous l'a dit, c'est clairement, bah, du coup, bah, l'architecture des pays de l'Est, un petit peu le design, ouais, les couleurs.
Donc voilà, ça, c'est votre arrivée à Cracovie. Bon, qui nous raconte un petit peu, là, comment ça se passe Parce que évidemment, là, on n'est pas encore à Auschwitz, on n'est pas encore à Birkenau, on n'est pas encore dans les moments forts du voyage. Mais est-ce que vous aviez peur avant de partir? Et quand vous arrivez, comment vous êtes? Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous arrivez, Florian?
Quand on arrive à Cracovie, on est excité du voyage, de fait de partir avec le groupe et les formateurs. Et il y a un petit peu d'appréhension pour le lendemain.
Parce que le lendemain, justement,
le
vous
lendemain,
allez à Auschwitz.
On allait à Auschwitz et un petit peu de tristesse et d'excitation de voir le projet se concrétiser. Voilà.
Du coup, vous voyagez un peu, vous bougez un peu dans la ville pour découvrir des choses. Il y a des choses qui vous ont marqué déjà à Cracovie ou pas? Ou Cracovie, c'était plus bon, vous avez découvert un peu comment était la Pologne, l'architecture, vous parlez de l'architecture des pays de l'Est.
Très sombre, je dirais. Bien sombre. Et du coup, même la ville, on ressentait en fait la douleur, je pense... Que la Deuxième Guerre mondiale a infligé.
Ah oui, d'accord, dès l'arrivée à Cracovie pour vous.
Ah ouais. Mais carrément, oui. Quand on a commencé du coup à être à la place du marché, certes c'est très beau, mais il y a une atmosphère bien pesante quand même.
Après il y a des touristes, je suppose aussi.
Énormément de touristes
qui viennent voir. Ouais. Vous avez des échanges un peu avec eux?
Pas forcément avec les touristes, mais on s'est plutôt focalisé sur l'habitant lui-même.
On va passer à la journée, en tout cas les journées plus fortes en émotion, parce que vous arrivez le lendemain de votre arrivée à Cracovie, vous partez pour Auschwitz. Alors vous visitez les deux camps, vous les visitez en une journée, du coup Auschwitz et Birkenau. On va faire un petit tour de table et vous allez me dire, quand vous êtes arrivé devant le camp d'Auschwitz, voilà, vous étiez dans quel... qu'est-ce que ça vous a fait en... Asma.
Quand on arrivait devant le camp, c'était triste quand on le voit comme ça. Il y a des grillages.
Oui, parce que le camp, il n'a pas été aménagé, en fait. Il n'y a rien qui a changé. Ils l'ont laissé comme il était, c'est ça?
Oui. Ouais. On est rentré dans plusieurs camps et on voit les photos sur les murs. Y a des enfants, il y a des grands, il y a des petits, il y a des vieux, il y a tout. On voit comment ils sont... On sait qu'ils ne mangeaient pas bien. Il y a des enfants qui ne sont pas des cheveux.
Ça, c'est les photos, en tout cas, que vous avez vues déjà quand vous étiez à l'intérieur.
Oui, on a fait beaucoup de photos. Il y avait aussi des cheveux des femmes, des enfants.
Des vrais cheveux.
Des vrais cheveux.
C'est-à-dire qu'ils ont gardé entassés.
Oui, il y a des vrais cheveux qui m'ont beaucoup touchée. Des assiettes, des verres, de eux.
Florian, alors pour vous, qui, comme vous disiez tout à l'heure... Vous voulez partir depuis longtemps. Alors, je crois que vous avez été préparé quand même, puisqu'en arrivant dans le bus pour aller à Auschwitz, vous avez eu... il y a une personne qui vous parlait, qui vous expliquait un petit peu. Voilà, il y a eu toute une petite préparation avant d'arriver sur place.
Déjà, on s'est beaucoup préparé psychologiquement. On en a parlé avant de partir avec les formateurs, qu'on se prépare un minimum. Mais on n'est jamais préparé. Quand on va là-bas, on n'est pas préparé. Donc sur le trajet pour aller de l'hôtel jusqu'à Auschwitz, je suis resté dans mon coin pour... j'appréhendais un petit peu la journée. Je voulais me focaliser sur moi-même, prendre la force pour surmonter la journée. C'était pas évident, mais en arrivant sur place, c'était un moment fort. On y est, on va voir ce qui s'est passé, on va se faire notre propre idée. Et l'arrivée était dure.
Oui, parce qu'on voit dès l'arrivée, il y a l'espèce de grille qu'on voit à l'entrée avec marqué dessus...
Le travail rend libre.
Le travail rend libre. Ah d'accord, donc c'était ça, c'est ce qui est marqué en entrant dans le camp.
Parce que le camp de concentration, c'était fait pour travailler.
Pour travailler.
L'impression que j'ai eue, enfin ce que je me suis dit, c'est j'ai la chance de pouvoir rentrer et de savoir que je pourrais en ressortir. C'est vraiment fort comme moment.
Et du coup, quand vous rentrez, du coup, parce qu'il y a tout ce que vient de dire Asma, du coup, vous découvrez, parce qu'on a vu des photos, il y a des reportages, depuis petit, on a beaucoup été confrontés aux images, que ce soit en cours d'histoire ou même à la télé, tout ça. Là, vous rentrez, et pour la première fois, vous voyez vraiment, je crois qu'il y a des chaussures également qui ont été entassées, Il y a les cheveux, il y a des valises, je crois, avec toutes les affaires. Il y a beaucoup de photos.
Il y a les valises avec... le nom des personnes, leur date de naissance, c'est dur. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir repartir, peut-être. Et comme le disait Asma, les cheveux, il y a une salle remplie de cheveux humains. Et c'est...
Oui, parce que pour expliquer aux auditeurs qu'ils ne sauraient pas, là, ils rasaient, notamment les nazis, rasaient les personnes qui entraient dans les camps avant l'extermination. Nesrine.
En fait, au tout début, quand on arrive, on passe les fouilles, etc. Du coup, on ne voit rien et on ne se rend pas compte. Et au moment où on dépasse les fouilles, c'est là où les choses sérieuses commencent. Du coup, bah, on a l'entrée avec la fameuse phrase. Et du coup, on voit les bâtisses qui s'enchaînent, quoi, vraiment à perte de vue pour le coup. Comme elle a dit Asma, des fils de barbelés, mais de partout. Et quand je suis rentrée, la première des choses que j'ai eues dans ma tête, en fait, c'était un peu regarder, pas écouter les autres, mais m'imaginer dans ma tête. Qu'il y ait énormément de monde, m'imaginer en fait une journée type quand on arrive au camp, tout simplement. Et là, ouais, effectivement, j'ai vraiment pris peur. Et je me suis dit, ouais, on a de la chance aujourd'hui, comme il a dit Florian, de rentrer, de visiter et de me dire qu'après, je vais rentrer chez moi.
Est-ce que vous dites à un moment, quand vous voyez tous ces cheveux, toutes les valises et tout ça, est-ce que vous dites non, c'est pas réel en fait? C'est un petit peu... Vous avez l'impression d'être pas dans un film, mais est-ce que vous vous dites non, c'est pas réel, c'est pas possible que des gens aient pu faire ça?
On a du mal à... Je pense qu'on peut pas vraiment l'imaginer, que ça s'est vraiment passé, c'est trop. On sait ce qu'il y a eu.
Il y a une dame un monsieur qui vous emmène et qui vous fait visiter, qui vous raconte, qui vous explique.
Elle nous a expliqué voilà ce qui s'était passé, mais pour ma part, j'arrive pas à l'imaginer que ça a pu arriver quoi. C'est
quand on rentre dedans, malgré tout ce qu'ils peuvent nous montrer en histoire, etc., tout ce qu'on peut regarder, documentaires et tout. Là, en fait, on se rend pas compte de la gravité de la chose. Mais quand, pour ma part, quand j'ai mis les pieds là-bas, j'ai compris. J'ai compris que ouais, effectivement, c'était réel et que ça s'est réellement passé. Donc, ça fait quelque chose. Ouais, on a énormément de chance, énormément, énormément. Et le moment qui m'a, le plus touchée dans le camp, c'était la deuxième partie, du coup, c'était à Birkenau.
Vous êtes allé l'après-midi.
Oui, voilà, parce que le camp, du coup, il est divisé en deux. C'était devant le mémorial. Comme par hasard, c'était pour le coup notre journée, il y avait des chants de juifs, un petit rassemblement. Voilà, et en fait, il récitait.
Il faisait des prières sur le mémorial.
Voilà, plutôt, il faisait des prières, plutôt, effectivement.
Mmh. Et ça vous a marqué?
Et oui, moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, malgré tout ce qui s'est passé, il ne faut pas qu'il s'arrête à des erreurs, en fait, juste d'une seule personne. Certes, elle a touché énormément de personnes, mais ils avancent. Et l'important, c'est qu'ils soient ici tous ensemble. Et c'était ça qui m'a touchée.
Florian?
Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est en arrivant, il y avait un bloc qui était pour les victimes françaises. Ce qui m'a touché, c'est qu'on voyait les convois, avec le nombre de personnes par convoi, d'hommes, de femmes, des personnes qui étaient gazées directement à l'arrivée. Ce qui m'a le plus touché, c'est le moment où j'avais envie de m'isoler un petit peu du groupe. C'est j'essayais de trouver dans quel convoi avaient été emmenés des personnes de ma famille. Je ne l'ai pas su, malheureusement. C'était le moment le plus dur.
C'était qui, votre famille, d'ailleurs? C'était les grands-parents, les arrière-grands-parents?
C'était les arrière-grands-parents.
Du coup, vous êtes allé à Birkenau l'après-midi. Est-ce que c'est un peu semblable, les deux camps, quand on visitait Auschwitz et Birkenau, parce que c'est deux parties du camp, vous dites, ou est-ce que c'est un peu semblable, Nesrine?
Ça reste dans la même dynamique. Et quand on est arrivé en fait sur Birkenau, c'est tellement gigantesque. On passe en dessous d'un espèce de tunnel. Et là, en fait, où on voit vraiment l'immensité du camp. C'était vraiment à perte de vue. Le premier, il est plus petit, plus condensé. L'autre, il est plus grand et plus large.
D'accord. Du coup, ça vous a permis de tout voir en tout cas,
oui,
de voir
oui,
comment
oui,
c'était.
Oui.
Le lendemain, du coup, je vais poser la question au formateur aussi parce que ça peut aussi vous toucher, vous directement, mais comment vous vivez ça avec les stagiaires? Parce que quand vous arrivez déjà, vous vous dites ça va être difficile pour vous. Peut-être que vous dites vous avez un peu plus de distance critique, on va dire, vous allez me dire non, peut-être non, pas du tout, c'est pareil. Mais voilà, comment, parce que vous devez faire attention aussi, vous partez avec des jeunes. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous voyez en eux quand ils rentrent, ou est-ce que vous aussi, vous êtes dans la même émotion? Du coup, vous n'avez pas le temps de voir, vous n'avez le temps de voir personne, de voir aucune émotion, parce que vous aussi, vous êtes pris dans la visite du camp. Comment ça s'est passé pour vous?
Il est vrai que pendant tout le voyage et surtout cette journée à Auschwitz, il y avait le formateur qui était présent, mais il y avait aussi la personne, il y avait aussi Emmanuel qui était là. Mmh. Le formateur se devait d'être dans son rôle de formateur, de cadrer, de pas forcément être dans le ressenti, d'être dans l'accompagnement. Mais Emmanuel était aussi là et était très touché de ce qu'il pouvait vivre. Je pense que ce voyage, je ne l'aurais jamais fait seul. Là, c'était vraiment l'occasion. On s'est tous préparés, mais comme l'a dit Florian tout à l'heure, on n'est jamais prêt. En effet, il y a toute notre culture, enfin, notre scolarité qui nous a permis de travailler sur ce sujet, de lire, entendre, et tout ce qui a pu se passer. Mais là, on le vivait vraiment. Et donc, il y avait cette sensation étrange du formateur un peu perdu qui devait quand même être là et présent. Et la personne... Qui ressentait les choses. Pendant toute cette journée, moi, j'ai eu l'impression de ne pas respirer. Enfin, j'avais du mal à reprendre mon souffle. J'avais l'impression d'avoir un poids sur la poitrine pendant toute cette journée. Mais dès le départ de l'hôtel, en effet, Florian, tout à l'heure aussi en parlait, on a eu un... Enfin, toi, tu t'es isolé. On a eu une vidéo qui nous remettait dans le contexte. Donc, c'était très pesant dès le départ, dès qu'on est monté dans le bus. Et ensuite, toutes les différentes étapes, le portail et tous les blocs... C'était une émotion continue tout au long de la journée. Il fallait contenir tout ça, ou pas. Parce qu'il y a des moments aussi où je pouvais craquer, et j'ai craqué, parce que la personne était là aussi. Mais je suis content de l'avoir vécu aussi, avec ces jeunes.
C'est à l'humain.
Ben, c'est vrai, comme vous l'avez dit, tous on s'était préparés, mais on n'y est jamais préparé de toute façon. Effectivement, le matin, c'était un petit peu pesant. Là, on est vraiment plongé déjà dès dans le bus avec ce film. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. À l'arrivée, effectivement, portail de sécurité. Ensuite, on sort, on marche vers ce fameux portail. Hein. Moi, j'étais replongée dans mes cours d'histoire. Je suis souvenue, là, au collège, avec mon bouquin, je voyais la photo avec, Arbeit, Match, Frei. Enfin, je veux dire, la liberté. Je vous ai posé des questions, mais de quelle liberté vous êtes en train de me parler? Enfin, je me posais des questions intérieurement.
Mais ça reste assez théorique, en fait, quand on est au collège.
De quelle liberté en face, on a des barrières, des barbelés, il y a tous ces blocs. Et plus on avance, on entre dans le camp, on visite, on ressent en fait ce qu'ont vécu hein, ces personnes. Alors bien sûr, il y a la posture du formateur, mais je pense que au fur et à mesure, ça c'est... Cette posture...
C'est
estompé, parti. Mmh. On est tous humains, donc forcément, moi j'ai ressenti beaucoup de choses. Déjà, on voit les cheveux, tous ces objets... qui ont appartenu à toutes ces personnes, enfants, femmes, hommes, vieillards, handicapés. Enfin, c'est atroce. Et puis, on a visité, je ne sais pas si vous vous souvenez, du bloc 11. Je me souviens très bien du bloc 11, avec ses fenêtres. C'était une prison, encore dans la prison. Et puis, on y entre, on descend. Et là, je ressens, on a tous ressenti la même sensation, une boule au ventre. Parce que la dame nous avait parlé, la conférencière nous avait dit qu'il y avait des prisonniers, et puis ils étaient entassés dans un mètre carré, il y avait peut-être 2-3 personnes à l'intérieur. Mmh. Et moi j'ai senti la mort, quoi. C'est une boule au ventre, j'arrivais pas à respirer, tout ce que je voulais c'était remonter en surface. C'était trop, ouais. C'était intense. Alors, il faut savoir qu'Auschwitz, c'est un camp de concentration. Comparé à Birkenau, là, on est vraiment dans le camp d'extermination. Donc là, c'est encore... ça monte, hein. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est... On n'imagine pas, parce qu'on avait vu des photos, etc. Mais quand on y est, il faut voir, c'est immense. Il n'y a plus de faim. Tous ces baraquements, on pense aux conditions de vie. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Je reviens sur ce qu'a dit Nesrine ou Florian. Oui, on a vraiment de la chance. C'est aussi se poser des questions. Nous, si on était là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi maintenant? Ouais, on a vraiment de la chance. Et puis, le moment aussi qui m'a touchée, parce qu'il y avait Nesrine aussi, c'était le chant, les prières, donc le Kaddish. Ça, c'était vraiment...
Le Kaddish qui est une célèbre prière juive.
Aux morts. Et puis le son de la trompette, nous on s'éloigne, on va vers cette forêt, puisque la nature a repris le dessus. Hein, c'est plus, il y a quand même le camp, il y a cette présence-là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était plein de boue. c'était pas comme on le voit aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir fait voilà, avec mon collègue Emmanuel, les jeunes surtout. C'est grâce à eux aussi qu'on peut partager tout ça avec eux.
Oui, parce que c'était votre première fois, vous y étiez ni l'un ni l'autre jamais.
Oui. Allez, ouais. Oui. Mmh. Et ça restera moins gravé, quoi, si je m'en souviendrai pour toujours.
Tu voulais ajouter, Florian, pardon.
Je voulais ajouter que ce que disait Salima, il y avait les stagiaires, il y avait les formateurs. J'ai trouvé, enfin, pour moi, je pensais qu'il n'y avait pas une séparation entre stagiaires et formateurs. C'était juste un groupe qui était là. C'était un groupe qui était là, qui se soutenait. Il y a certains moments où on voyait qu'il y avait d'autres personnes qui n'allaient pas bien, on essayait de se soutenir et il n'y avait plus. C'était plus formateur et stagiaire. C'était.
C'était humain.
Ouais.
Vraiment.
Bon, comme je te disais, on quitte les camps pour aller au troisième jour de votre voyage. Vous avez eu l'occasion notamment de visiter le ghetto juif de Cracovie. Alors justement, père, parlez-nous de ce ghetto juif. On va d'abord écouter un petit extrait de ce que vous avez, de ce que vous avez fait là-bas, puis après on en parle.
Il y a aussi des constructions qui évoquent les préparatoires pour la défense de la ville. Et parce que Varsovie était complètement détruite par les Allemands. Et Cracovie s'est préparée pour la défense, les Varsoviens. Et donc, il était forcé par les Allemands de préparer la défense de la ville. Et pour ça, le bunker, d'autres obstacles contre les chars. Mais cette fois, l'armée rouge, et le commandant en tête et le maréchal Koniev s'est dépêché pour être le plus vite possible à Berlin. Et donc, il entourait la ville, entrait de l'autre côté. Donc, les Allemands, complètement surpris, ils n'ont pas le temps pour détruire Cracovie. Et pour ça, ils ont dynamité le pont, ils ont détruit les archives et ils ont quitté la ville. Et puis, l'armée rouge entrait assez facilement. Et le 18 janvier 1945, Cracovie était déjà libre.
Asma.
On est entré dans le ghetto juif. Il y avait une dame qui nous explique comment ils font leur prière là-bas. Et là-bas, il y avait des dessins dans les plafonds et dans le mur. Il y a des tables. Il y avait dans chaque table un Torah. Et il y avait dans le mur un tableau qui nous a dit qu'il mit les noms des morts. Chaque année, dans l'anniversaire de la personne qui est morte, il y a une ampoule qui s'allume, comme quoi ils font.
Et pour se remémorer. Ouais. Donc, ça, c'était le matin que oui. Vous avez fait ça. Et du coup, l'après-midi, vous allez visiter une usine qui est connue, hein, puisque notamment elle est connue par un film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. Du coup, vous avez visité cette fameuse usine Schindler. Qui peut me raconter un petit peu cette visite, Nesrine? C'est quoi cette usine Schindler?
Alors,
quoi
par rapport à la visite Schindler, personnellement, je me suis plutôt focalisée sur le personnage. Et l'usine, elle parle vraiment du coup sur le personnage qui était Schindler. Mmh. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui a aidé donc les juifs à se cacher, etc.
Donc c'est un patron, en gros, c'est un chef d'entreprise allemand.
Oui, voilà, ouais. Voilà, qui aidait certains juifs à se cacher, donc des SS. Sauf que l'envers du décor, il était également, il collaborait également avec les Allemands, en fait. Donc, dans un sens, certes, c'était quelqu'un de bien, il a eu de bonnes actions, mais dans un autre, non.
Vous avez pu avoir les deux facettes du personnage, en fait.
Exactement, exactement. Après, c'était très, très, très intéressant ce qu'on a vu. Dans l'usine, on a vu un petit peu une cachette, en fait. Une cachette. Et là, pour le coup, on se rend vraiment compte que c'est impossible de vivre dans même pas 2 mètres carrés. Pour le coup, ils vivaient à 5, 6 ou voire plus peut-être. Ils n'ont pas le droit de faire aucun bruit toute la journée. Soit on reste allongé, soit on reste debout. Enfin, c'est invivable, c'est vraiment invivable.
Cette usine fabriquait notamment de l'armement, parce que c'est devenu une usine où vous fabriquez des munitions. Voilà. Du coup, ça vous a marqué de voir ça. Est-ce que vous aviez vu le film d'abord?
Jamais.
Du coup, vous ne connaissiez pas l'histoire de ce monsieur, en fait?
Non, je l'ai connu sur les lieux.
Bon, après, bienvenue à Hollywood, hein, parce que là, Hollywood, ils prennent des personnages de l'histoire, ils prennent un petit morceau, puis après, ils font des belles histoires. On ne sait pas forcément tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir le film quand même. C'est un beau film. Alors du coup, ça, c'est votre dernière visite que vous allez faire en Pologne, et puis après, vous rentrez, du coup, en France. Et là, du coup, on est au mois de septembre. Ça fait combien de temps? Ça fait 4-5 mois que vous êtes parti déjà. Qu'est-ce que ça a changé chez vous d'avoir fait ce voyage? Qu'est-ce que ça a changé par rapport à l'histoire, ce que vous avez appris sur place, ou bien même par rapport à maintenant, parce qu'on est dans une époque, il ne passe pas 10 minutes sans qu'on entende quelque chose sur les Juifs. Ça peut être les Juifs, ça peut être les musulmans, ça peut être n'importe qui. Voilà, un racisme encore qui est très présent, que ce soit qu'on entende à la télé, qu'on entende que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà, vous, qu'est-ce que ça a changé chez vous, ce voyage?
Moi, personnellement, je dirais que ça a changé ma vision des Juifs. Je ne savais pas du tout que c'était un peuple qui était autant uni. Et de tout le voyage, l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'était leur union, leur solidarité. Et ça, je trouve...
Malgré ce qui s'était passé,
ce qui s'était passé, entre eux, ils ont une solidarité, mais incroyable. Et du coup, je me suis dit, je veux aussi être quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est solidaire, où j'aide mon prochain, et voilà.
Florian.
Moi, de notre voyage à Cracovie, j'essaye d'en parler. Ça, quand je suis avec ma famille, avec mes amis, ou quand je rencontre d'autres personnes, certaines fois, ça arrive, le sujet arrive sur la table, et j'en parle parce que c'est important. C'est le travail de mémoire, c'est important qu'on en parle pour éviter que ça se reproduise, qu'une chose comme ça se reproduise, parce que c'est pas possible. C'est arrivé une fois, malheureusement, mais ça peut pas arriver, c'est pas possible.
Que ça se reproduise.
C'est pas possible que ça se reproduise, c'est trop.
Et vous, du coup, quand vous entendez, on le sait, c'est dans... Bon, on va pas citer de nom, parce que c'est pas l'objet. Voilà, quand vous voyez des discours, certains discours dans la société, que ce soit la société française ou même à l'étranger... qui se diffuse un peu dans la société. Ça ne concerne pas que les Juifs, d'ailleurs. Ça peut concerner la Deuxième Guerre mondiale, ça peut concerner d'autres événements qu'il y a eu ici en France ou à l'international. Quand vous entendez des paroles racistes aussi, antisémites qui peuvent se développer, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous donne envie de vous engager aussi dans ce combat-là? Vaste question. Je te laisse réfléchir. Je vais demander à Asma qu'est-ce que ça a changé pour elle, ce voyage. Puisque maintenant qu'elle a écrit, après avoir écrit la lettre à Anne Frank, est-ce qu'après le voyage, la lettre, elle serait différente? Ou ce serait exactement la même lettre? Ou est-ce que vous auriez changé des choses?
Là, je serais changé mon ressenti parce que j'ai vivé ça.
Tu as vécu ça?
J'ai vécu ça. Mm-hmm. C'était pas la même quand j'ai regardé le film ou j'ai lu des livres. C'est pas la même du tout. J'ai pas pensé que les Juifs ils ont vécu ça. Mm-hmm. Cette tristesse, cette douleur. Et par rapport à moi, je peux pas vécu ça.
Vous auriez pas pu vivre ça,
c'est
ça?
Non. C'est trop difficile.
Et vous, mes chers formateurs, formatrices, qu'est-ce que ça a changé chez vous?
Je suis juste ravi de voir que cette jeunesse qu'on a souvent tendance à dénigrer, à se dire qu'elle s'intéresse à rien, que là, elle a mené un projet de A à Z, qu'elle s'est intéressée, qu'elle a fait des recherches, tout ça dans l'écoute, dans la tolérance, dans le respect. Après, j'ai peur de tomber dans le cliché, mais c'est pourtant vrai. C'est ce qui s'est passé pendant quelques mois, tout au long de ce projet. Vous avez travaillé ensemble, vous avez appris à s'écouter, à se respecter, à travailler, à apprendre à accepter les différences. Donc moi, ça me réconforte dans la jeunesse des années 2018, 19, 20, et sur l'avenir aussi. Donc bravo à vous pour ce
Merci
beau projet.
Salima, pour conclure.
Changer, moi je dirais plutôt apporter. Et le fait de voir aussi cette jeunesse qui s'intéresse aux autres, qui s'ouvre aux autres finalement, parce que c'est vrai qu'on dit que le jeune, je reprends tes mots Emmanuel, s'intéresse à rien et n'est pas curieux, n'est pas motivé pour aller vers de nouveaux horizons. Ce projet le montre et nous on y tient vraiment, et quand on voit le résultat à la fin, on est heureux pour eux parce qu'ils ont aussi appris sur eux-mêmes. Quand j'entends toutes ces valeurs, l'écoute, toutes ces qualités, l'écoute, travailler en groupe, aussi de manière individuelle, pour nous, ça nous conforte aussi dans l'idée que on travaille aussi pour ça. Et Moi, je les félicite, parce que c'était pas un projet gagné d'avance, et franchement, bravo.
Et il est allé au bout, Florian.
Ce que je tenais aussi à dire, c'est que à la base, les stagiaires, on se parlait pas entre nous, ou pratiquement pas, et vraiment avoir travaillé, même avant de partir, justement en Pologne, ça a quand même soudé énormément les personnes, ça a créé des amitiés. C'est super d'avoir vécu ça ensemble.
Merci en tout cas à toutes et tous d'être venus parler de ce projet Anne-Franck au micro de Marmite FM. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que vous étiez des stagiaires de l'école de la deuxième chance, puisque maintenant vous êtes Nesrine et Asma, elles ont trouvé leur projet, donc bravo à elles. Du coup, la prochaine fois, c'est pour Florian. Merci en tout cas d'être venu au micro de Marmite FM. Donc il y avait avec nous Asma, Nesrine, Florian. Et puis une petite pensée également à Victor qui doit être coincé dans un train entre Paris-Montparnasse et Trappes. Soukaina également qui a participé au voyage. Et puis Ashraf. Et bien sûr, merci à Salima et Emmanuel, nos deux formateurs de l'école de la deuxième chance. Et merci également à Julien au montage. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en libre écoute, en téléchargement sur le podcast de la radio marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne. Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.